Nous enchaînons donc avec la conférence inaugurale de ces premières JPS avec Olivier Diens, que je vous prie d'applaudir pour l'accueillir, qui est le premier vice-recteur exécutif adjoint de l'Université McGill de Montréal. Notons aussi que vous avez été l'instigateur et le coordinateur et l'organisateur d'un événement incroyable qui s'appelle « Le futur de l'enseignement supérieur, vision 2050 », et un site internet « university2050.com » qui a été organisé en mai 2015. Voilà. L'amphi est à vous.
Merci de m'avoir invité. Je veux profiter de l'occasion quand même pour remercier mon ami Didier Paquelin qui m'a invité. J'en suis très honoré et très touché. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous parler de ce qui m'obsède beaucoup depuis quelques années. Et je pense qu'en plus, ces discussions-là vont nous permettre d'établir entre la France et le Québec, à travers par exemple Didier et aussi merci à Claude Bernard, des liens encore plus forts et de réfléchir à ces questions qui nous interpellent nous tous, en particulier dans le monde francophone. Alors laissez-moi commencer avec une petite vidéo. Alors cette vidéo a été tournée à la Société des arts technologiques à Montréal. Alors vous êtes couché dans un dôme, vous êtes couché dans une immense salle comme celle-ci, vous êtes couché à terre et sur le dôme sont projetées des images qui vous font complètement donner l'impression que vous êtes complètement immergé dans des lieux virtuels et vous êtes évidemment ici en groupe et non pas tout seul comme le font les nouvelles machines de réalité virtuelle. Pourquoi présenter cette vidéo? Pour deux raisons. La première, c'est que si on veut parler d'innovation pédagogique, il faut d'abord et avant tout comprendre le monde technologique dans lequel nous sommes et le monde technologique qui est en train de se développer. Car ce monde-là va avoir des impacts, va avoir des influences, va transformer l'éducation, la pédagogie, la société. Il faut comprendre ce monde dans lequel nous sommes. Et ce que je vais faire dans cette présentation, c'est de vous proposer des pistes de réflexion sur la relation entre la pédagogie et la technologie. Et la deuxième raison pour laquelle je vous présente ce vidéo, c'est que je crois qu'il est très, très important de comprendre que nous ne pouvons pas rejeter ce monde. S'il y a une chose dont vous devriez vous rappeler de cette présentation, c'est la suivante. Emparez-vous de ce monde. Accaparez-vous de ce monde. Insérez dans ce monde les valeurs qui vous sont importantes. La justice, l'éthique, la répartition des richesses, la citoyenneté. Ne laissez pas les autres, ne laissez pas d'autres compagnies, ne laissez pas ceux que vous ne connaissez pas et que vous n'appréciez pas s'emparer de ce monde, car ils vont le faire. Nous ne pouvons plus rejeter ce monde, il est là. C'est le monde de l'humain-machine, c'est l'écosystème de l'humain-machine. Nous allons devoir créer un système d'éducation, créer une pédagogie qui va utiliser ce monde et qui va l'exploiter dans le sens positif du terme. Alors, quel est ce monde? Je vais commencer par vous bousculer un petit peu en vous parlant de quel est ce monde exactement. Et je vais commencer par une citation de Raymond Kurzweil, qui a écrit un livre que vous devez connaître peut-être, La singularité, qui date du début des années 2000 et qui est maintenant directeur du laboratoire Google X. Raymond Kurzweil écrit la chose suivante, je vais le traduire ensuite en français. « We won't experience 100 years of technological advance in the 21st century. We will witness on the order of 20,000 years of progress when measured by today's rate of progress. » D'ici la fin du 21e siècle, nous aurons vécu 20 000 ans de progrès à la vitesse d'aujourd'hui. Donc, que ce soit 20 000 ans, 2 000 ans, 3 000 ans, 500 ans, peu importe. Mais il y a une augmentation exponentielle des technologies. Vous croyez être dans la révolution technologique? Vous croyez être immergé dans la révolution technologique? Détrompez-vous. Cette révolution n'a même pas encore commencé. Il y a de nouvelles technologies qui apparaissent aujourd'hui et d'autres qui seront là demain, que nous ne pouvons pas encore prévoir, qui vont complètement bouleverser le monde dans lequel nous sommes. Et ces technologies-là vont nous forcer à repenser tout notre système d'éducation, toute notre pédagogie, toute la transmission des informations et des connaissances. Des technologies comme l'intelligence artificielle, des technologies comme Big Data, des technologies comme The Internet of Things. Hein? The Internet of Things, qui est en train de se développer, c'est la communication de tout ce qui nous entoure. Hein, les murs, les surfaces, les objets, les êtres humains, tout commence à communiquer. Des technologies comme l'imprimante 3D, qui est en train de bouleverser la médecine et qui va bientôt bouleverser l'industrialisation. Des technologies comme CRISPR, hein, qui est une technologie qui nous permet de manipuler la génétique d'une façon très, très précise et à un coût absolument ridicule. Et ces technologies-là vont arriver de l'avant et elles vont bouleverser notre monde. Nous allons devoir repenser à des choses fondamentales. Et ces choses-là, elles sont le sujet de l'éducation. Des choses comme l'économie, vous le voyez déjà avec l'ubérisation du monde, hein, et la précarisation actuelle des travailleurs. Ce n'est que le début. Des choses comme la socialisation en tant qu'enseignant, en tant que vice-recteur, en tant qu'administrateur d'université, vous savez qu'il y a des problèmes et des défis par rapport à la socialisation des jeunes dans nos institutions. Des défis éthiques. Que va-t-on faire avec toutes les données que nous avons? À qui vont appartenir ces données? Nous savons déjà à l'université, en utilisant Analytics, nous pouvons déjà savoir relativement facilement si un étudiant va être capable d'être diplômé ou non. Devrions-nous accepter cet étudiant? Devrions-nous investir des sommes importantes d'argent dans ces étudiants qui ont très peu de chances d'être diplômés? Voici les questions que nous allons devoir nous poser. Des questions sur la gouvernance. Vous le voyez aux États-Unis avec les primaires actuelles. Vous le voyez aussi en France. Vous le voyez dans plusieurs pays, des problèmes, des tensions sur la gouvernance. Voici où nous en sommes. Et voici ce que le monde nous provoque par les technologies. Et pendant ce temps-là, qu'avons-nous? Nous avons un système d'éducation, que ce soit en France, au Québec, au Canada, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, peu importe, nous avons un système d'éducation qui est efficace. Et je vous dis qu'il est efficace, qu'on a l'impression qu'il est cassé, mais la corrélation entre le nombre d'années que nous passons, que les étudiants ou que chacun d'entre nous passons dans le système d'éducation et ce que nous pourrions définir comme un certain succès, l'espérance de vie, la qualité de vie, etc., la corrélation est forte. Donc ce n'est pas un système cassé, mais c'est un système rigide, traditionnel. C'est un système qui a une façon de faire et que nous appliquons à tous. C'est un système qui est basé sur des caractéristiques qui n'ont rien à voir avec la pédagogie. En Amérique, les semestres commencent en septembre parce que historiquement, c'était la fin des récoltes. Les semestres finissent en mai parce que historiquement, il fallait aller dans les champs. Nous avons des choses comme des sessions de 3 heures de cours. Nous ne savons pas d'où ça vient. C'est facile, c'est efficace. Ce ne sont pas des choses qui sont pédagogiques. Les semestres... La rigidité de notre programme, de nos programmes, les heures de contact avec le prof et l'étudiant, rien de tout ça n'est pédagogique. Et c'est un système qui bouge à peine. Et là, ce que nous avons, c'est un système ici d'éducation qui est là, efficace, mais lent, traditionnel. Et la technologie et la société qui vont à cette vitesse-là. Et ce que vous avez ensuite, c'est le problème que nous avons, c'est que la distance entre les deux s'agrandit. Et c'est de là que vient la tension que nous avons dans nos salles de classe. Et c'est pour ça que nous devons ensemble réfléchir à ces questions-là. Alors, quel est ce monde médiatisé? Laissez-moi vous citer ici William Gibson, un auteur de science-fiction, qui dit dans une de ses entrevues, et je pense que c'est important, « The non-mediated world has become a lost country. It's a country that we cannot find our way back to. There is a pervasive sense of loss and a pervasive sense of excitement at what we seem to be gaining. » They are parts of the same feeling, this sense of loss and this sense of Christmas morning at the same time. Donc, en fait, ce qu'il vous dit ici, c'est que le monde non médiatisé, le monde non sans technologie n'existe plus. C'est un monde vers lequel nous ne pourrons plus jamais retourner. Et nous ressentons une sensation de sublime et de terreur face à ce monde-là, puisque nous savons que nous gagnons des choses extraordinaires et nous ne savons pas très bien ce que nous sommes en train de perdre. Et je vous montre ceci parce qu'il est important de savoir que déjà aujourd'hui, en partie, en grande partie, demain presque complètement, tout ce que nous ferons sera filtré par la technologie. Tout. L'amour, la haine, la socialisation, les finances, la gouvernance, toutes ces choses-là seront filtrées par la technologie. À un point tel que j'aime bien utiliser une métaphore, c'est une métaphore évidemment, la technologie est notre troisième hémisphère du cerveau. Tout passe par la technologie. Et nous ne pouvons plus... avoir des systèmes d'éducation qui nient ces choses-là, qui n'exploitent pas cette technologie, qui ne comprennent pas que la technologie n'est plus un outil, mais un écosystème, et qu'il faut prendre cet écosystème en main, s'en accaparer et le faire nôtre. Alors, je vais maintenant vous présenter, je vais vous parler de sublime, le sublime et la terreur. Alors, maintenant, je vais vous provoquer encore un petit peu plus. Nous regardons ce que nous faisons un peu partout, au Québec, au Canada, aux États-Unis. De quoi parlons-nous dans les revues pédagogiques, dans les revues sur les universités, dans les articles, dans les journaux universitaires? De quoi parlons-nous? Nous parlons de MOOCs, par exemple. Nous parlons de classes inversées. Nous parlons de curriculum par objectifs et compétences. Et nous pensons, et je m'inclus dans tout ça, nous tous, nous pensons être en tête du peloton. Eh bien, je vais vous montrer c'est quoi la tête du peloton. Ce que je vais vous montrer maintenant, ce sont 3 petites vidéos. Les 2 premiers ont été tournés. Les 2 premiers viennent d'un centre de recherche qui s'appelle l'Institute for Creative Technologies, qui est basé à l'Université de Southern California à Los Angeles. La première vidéo, vous allez voir, ce sont des choses qui se font maintenant, qui sont là. Ça, c'est la tête du peloton. Pas l'IMOOC, ce n'est pas la classe inversée. Ça, c'est la tête du peloton. La première vidéo, c'est qu'ils ont enregistré un des rares survivants qui reste de l'Holocauste pour le musée de l'Holocauste de Los Angeles. Ils l'ont enregistré en 3D, haute définition. Ils ont fait 300 heures d'entrevue. Ils ont mis un moteur d'intelligence artificielle. Et là, maintenant, vous avez un avatar qui interagit de façon normale et naturelle avec les étudiants. La deuxième vidéo que je vais vous présenter, c'est au même centre de recherche. Et ce qu'ils ont, c'est des thérapeutes virtuels, pas très, très bien définis. En fait, c'est fait exprès parce qu'ils travaillent avec l'armée américaine et ils travaillent avec les soldats qui reviennent avec des traumatismes, le syndrome post-traumatique. Et ils s'aperçoivent que les soldats sont plus à l'aise à parler à une machine qu'à parler à un être humain, hein, parce qu'ils peuvent dire des choses plus personnelles. Mais ce qui est surtout intéressant, vous allez voir, c'est que la machine lit les émotions de la personne et réagit à ces émotions-là et est capable d'interagir avec cette personne comme le ferait une personne normale. Et la troisième vidéo, c'est l'enchevêtrement entre le réel et le virtuel. Ce que vous allez voir, la dernière chose que vous allez voir, c'est une baleine. Vous allez bien voir l'histoire de la baleine. On n'est pas encore rendu là. Ce n'est pas tout à fait où on en est rendu. Hein, c'est une compagnie qui s'appelle Magic Leap qui va utiliser des lunettes à la Google au lieu de projeter sur le verre, elle projetera dans les yeux. On n'est pas tout à fait rendu là. C'est un démo, mais c'est là, dans cette direction-là qu'on s'en va. Alors, pensez-y après avoir vu ces choses-là. Quelle est la valeur ajoutée du contact humain? Serons-nous encore là, professeurs et enseignants? Ça, c'est ce qui existe déjà, dans 10 ans ou 15 ans. Et si oui, comment allons-nous enseigner avec ces technologies? Comment allons-nous les utiliser? Comment allons-nous les exploiter?
My name is Pinchas Gutta. I will answer any questions you might have for me.
How old were you when the war ended?
I was between the ages of 13 and 14 when the war ended in 1945.
Do you remember any songs from your youth?
This is a lullaby that my mother used to sing to me, and I still remember it. It's in Polish. Jadą dzieci, jadą drogą, siostrzyczka i brat, i nawidzić się nie mogą, jaki piękny świat.
Hi, I'm Ellie. Thanks for coming in today. I was created to talk to people in a safe and secure environment. I'm not a therapist, but I'm here to learn about people and would love to learn about you. I'll ask a few questions to get us started. And please feel free to tell me anything. Your answers are totally confidential. Are you okay with this?
Yes.
So, how are you doing today?
I'm doing well.
That's good. Where are you from originally?
I'm from Los Angeles.
Oh, I'm from LA myself. When was the last time you felt really happy?
When was the last time? I don't know. Yeah, I'm not someone who's really like, I don't have any real high highs. I feel like I'm a level person. It's just happy. I guess to answer your question, probably a couple months ago.
I noticed you were hesitant on that one. Would you say you are generally a happy person?
I'm generally happy. It's just lately there are things just keeping me down.
Can you tell me more about that?
C'est très intéressant, la baleine, mais pensez-y. Hein, ça va ouvrir des dimensions extraordinaires de la créativité, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. On va pouvoir faire des choses magnifiques. Mais pensez-y, dans quelques années, nous allons avoir de sérieux problèmes et de sérieux défis avec nos étudiants qui vont avoir de la difficulté à distinguer entre le réel et l'imaginaire. Parce que ces choses-là vont se faire comme ça. Alors, pensez-y, les technologies que je vais montrer, sauf la baleine où on est en train d'y arriver, on y est. S'agit-il d'un fantasme? Non, pas vraiment, ces choses-là existent. Hein? On peut, vous pourriez me critiquer, me dire, oui, mais vous savez, l'intelligence artificielle a eu beaucoup de promesses depuis les années 50, et la plupart de ces promesses n'ont pas été tenues. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est certainement avant Watson qui a gagné à Jeopardy, c'est avant Deep Blue qui a gagné contre Kasparov, c'est avant le Deep Learning, c'est avant toutes les avancées que nous avons de l'intelligence artificielle. Hein? Et quand vous voyez les choses que je venais vous montrer, en tête du peloton, qu'est-ce que c'est? Imaginez-vous, dans quelques années, il sera très, très facile d'avoir des machines sur vos iPads ou sur vos téléphones avec des avatars intelligents qui auront accès à toute l'information d'Internet, qui seront capables de communiquer avec vous en langage naturel, qui seront capables de répondre à vos émotions, qui seront là 24 heures, 7 jours par semaine, et qui seront, si vous le voulez, parfaitement intégrés à la réalité. Hein, à quoi servirons-nous à ce moment-là? À quoi serviront nos institutions? Et comment surtout utiliserons-nous ces technologies? Alors l'urgence que je vois, ce qui m'empêche de dormir le soir, hein, c'est avons-nous un système d'éducation? Avons-nous une pédagogie qui permettra aux jeunes qui fréquentent nos institutions de pouvoir être des citoyens engagés, des citoyens impliqués dans la société, pas pour les 5 prochaines années, pour les 50 prochaines années? Et nous ne savons pas où le monde va aller. Nous ne savons pas dans quelle direction il va se développer. Mais sommes-nous, avons-nous ce système d'éducation? Avons-nous un système d'éducation, une pédagogie qui sont assez souples pour s'adapter à ces choses-là? Ou sommes-nous en train de nous renfermer vers des vieilles façons de faire traditionnelles? Utilisons-nous l'histoire et la justification de l'histoire pour ne pas avoir à regarder en face ces grands défis qui nous attendent? Voyez encore ici, je vous présente ici Viv. Hein? Alors Viv, c'est la compagnie qui a créé ça, c'est la compagnie qui a créé Siri dans le téléphone pour les iPhones. En fait, une compagnie a créé Siri, elle a été rachetée par Apple. Cette compagnie ensuite a créé un autre virtual personal assistant, hein, les assistants virtuels. Et là, ils sont en train de faire la version 2.0. En fait, c'est un assistant virtuel, on pourrait dire, sur stéroïdes, hein, qui prend des stéroïdes. Et ce qui est intéressant ici, c'est moins la citation que la dernière paragraphe. « The end result will be a digital assistant who knows what you want before you ask for it. Hein? » Il vous explique pourquoi. Hein? Parce qu'il sera capable de connecter avec tous les utilisateurs. Parce qu'il sera capable de comprendre, en fait, il va avoir une base de données de vos propres gestes. Et ça vous paraît, je sens qu'il y a des petits rires dans la salle, mais c'est déjà possible avec Big Data. On peut savoir très facilement ce que vont faire les êtres humains, et d'une façon très, très précise, et bientôt vous l'aurez dans vos poches. Ça, c'est l'urgence. Avons-nous un système d'éducation qui peut prendre ça en compte? C'est la question que je vous pose. Alors, les grandes questions sont les suivantes. Que sont l'éducation et la pédagogie à la frontière de la révolution technologique? Que deviennent information et connaissance à la frontière de la révolution technologique? Et surtout, le troisième point, le plus important pour moi, comment développer l'éthique, la maturité, la compassion et la justice sociale dans un monde dominé par les technologies? Comment penser la socialisation? Une bonne partie de ce que nous faisons dans l'enseignement, c'est de permettre aux jeunes de prendre de la maturité, de faire des expériences dans un milieu plutôt protégé. Comment allons-nous penser la socialisation maintenant quand tout le monde, comme dans cette salle d'ailleurs, quand tout le monde est devant son écran d'ordinateur, quand tout le monde est devant son téléphone? Comment allons-nous penser la socialisation et en faire une socialisation qui va nous amener à la maturité? Et comment enseigner dans un monde d'accès illimité à l'information, un monde de constante simulation, d'hypercompétitivité et de sous-financement, puisque ça semble être la direction dans laquelle nous sommes depuis quelques années? Alors, ça, c'est les grandes questions de l'éducation. Les grandes questions de l'université. Quelle est la valeur ajoutée du contact humain quand les technologies le font aussi bien que nous? Hein? À quoi sert d'avoir des salles de classe où, comme on en a une à McGill, où il y a 600 étudiants? Je ne vois pas très bien à quoi ça sert d'avoir une salle de classe à 600 étudiants quand la technologie peut être bien plus conviviale. Que ferons-nous à ce moment-là? Hein? Quelle pédagogie utiliser dans un monde où les machines enseignent? Nous allons voir ça plus spécifiquement. Mais comment utiliser la pédagogie? Que faire avec cette pédagogie? Comment s'adapter aux populations émergentes? Alors, je l'ai mis entre guillemets parce que c'est un terme qu'on utilise au Québec. Je ne connais pas le terme que vous utilisez en France. En fait, on parle ici des jeunes qui ont des problèmes, des jeunes autistes ou qui ont des problèmes d'apprentissage ou qui ont des problèmes de comportement et qui maintenant doivent recevoir, selon la loi, les mêmes services que les autres jeunes et qui arrivent donc dans le milieu universitaire après plusieurs années et qui nous posent des défis majeurs. Et le dernier, ce n'est pas le but de cette présentation, mais je pense que c'est important d'en parler. Comment repenser le PhD ou les études supérieures? Puisque les études supérieures et le PhD en particulier ont été créés pour nourrir le système universitaire. Et nous savons qu'il n'y a presque plus de postes comment le repenser, comment faire pour que ce PhD devienne utile à la fois pour les étudiants et pour la société. Et les grandes questions en pédagogie, en fait, il y a comme deux grands thèmes pour moi qui sont importants. Comment créer un environnement sain mais exigeant? Et pouvons-nous nous définir par l'inclusion plutôt que par l'exclusion? Nous avons créé un système d'éducation en France, au Québec et aux États-Unis qui aimait beaucoup l'exclusion. Alors, vous deviez apprendre, vous deviez atteindre un certain niveau. Si vous n'atteignez pas ce niveau, vous étiez éliminé. Il y a l'élimination des candidats. C'est un système qui avait de certaines qualités, mais qui s'appliquait à un certain petit nombre de gens pour lequel ces choses-là sont intéressantes. Malheureusement ou heureusement, si vous êtes au poste où vous êtes aujourd'hui en éducation, vous et moi, c'est que ce système était bon pour vous, il correspondait à vos préférences. Alors nous avons tendance à penser que c'est le système par excellence, mais c'est un système basé sur l'exclusion. Ce que nous faisons maintenant de plus en plus en Amérique, c'est que nous disons, est-ce que le but est d'éliminer ou est-ce que le but est de faire avancer tout le monde vers l'acquisition de compétences. Même si ça prend 3, 4, 5 ans, 6 ans pour le faire, peu importe. Nous sommes en train de prendre une direction différente. Mais là, à ce moment-là, le défi auquel nous faisons face, et nous voulons créer des environnements pédagogiques sains, des environnements universitaires, des curriculums sains, mais nous voulons aussi qu'ils restent exigeants. Et là, nous avons c'est un jeu délicat à faire entre soutenir et nourrir à la petite cuillère et rester exigeant. Voilà le premier défi. Le deuxième défi, celui des technologies. Comment penser, réfléchir, créer avec, par et à travers les technologies? Je vous l'ai dit, je vous le répète, la technologie n'est plus un outil, c'est un écosystème. Comment penser la pédagogie par les machines? Que devrions-nous déléguer aux machines? Comment devrions-nous les utiliser? Je n'ai pas encore de réponse à ces questions-là. Je vous propose des pistes de réflexion. Alors, maintenant, je vais vous faire un rapide tour d'horizon des défis de l'université en Amérique. Et je pense que les choses probablement peuvent s'appliquer, la plupart d'entre elles, en France aussi. Alors, il faut comprendre que, que les technologies deviennent un écosystème, l'université aussi devient un écosystème. L'université n'est plus simplement une institution. Elle est immense, en Amérique, j'imagine ici aussi, parce que je sais qu'il y a des volontés de fusionner des universités. On parle d'universités de 30 à 70 000 étudiants. On parle d'universités qui ont une implication sociale, qui ont une implication financière, à qui on demande des choses qui vont bien au-delà de la salle de classe, comme le soutien aux étudiants. Il faut comprendre que l'université n'est plus simplement une institution, elle devient-elle un gouvernement. Les étudiants changent. Alors, les étudiants, les millennials qu'on appelle aux États-Unis, ces étudiants-là sont très appliqués, ils sont très volontaires, ils ont un sens de l'éthique extrêmement développé, ils ont un sens de la justice sociale extrêmement développé, mais ils cassent facilement. Ils ont peu de résilience, ils ont de la difficulté à faire face à des échecs. Et ils n'ont pas de cause commune. C'est une chose importante ici. Et on le voit aux États-Unis, au Canada, il y a plusieurs petites causes qui lèvent à gauche et à droite parce qu'ils n'ont pas de cause commune. On pourrait parler de l'environnement, mais l'environnement est trop complexe pour être une cause commune. On pourrait parler de l'austérité, mais l'austérité est trop complexe pour être une cause commune. Les revendications, donc, sont instables. Vous avez la nécessité de l'intéressant. J'insiste ici là-dessus parce que vous soyez d'accord ou non avec la nécessité de l'intéressant, que vous soyez ou non d'accord avec ces technologies qui nous stimulent constamment, ces choses-là n'iront pas en diminuant. Ces choses-là ne disparaîtront pas. Vous êtes comme moi, je présume ici que nous sommes à peu près, la plupart d'entre nous, d'à peu près de la même génération, à quelques dizaines d'années près. Nous sommes à peu près de la même génération. Et regardez-vous, je vous dirais à peu près un rapide tour d'horizon qu'on est à peu près 60-70% de gens avec leur laptop ouvert pendant la conférence, tous des Mac d'ailleurs, ça c'est intéressant. Ça ne va pas aller en changeant. Il y a la nécessité de l'intéressant. Au lieu de la refuser, au lieu de la repousser en salle de classe, posez-vous la question, comment l'utiliser? Comment l'exploiter pour amener la personne que j'ai devant moi à être une personne qui va avoir les outils nécessaires pour un monde changeant? Les compétiteurs, très rapidement, vous le savez, pour une fois, moi j'en suis très heureux, les universités ont perdu leur monopole. Maintenant, nous avons Google, nous avons TED.com, nous avons Apple, nous avons edX, dont McGill fait partie, ou Coursera. Tous ces grands nouveaux compétiteurs, tant mieux. Ils vont nous forcer à nous améliorer, ils vont brasser la cage un petit peu. Nous avons été, je dois vous avouer, toutes les universités, nous avons été relativement passifs. Nous sommes assis sur nos lauriers. Pendant toutes ces années, maintenant, nous avons des compétiteurs, mais c'est un enjeu important puisqu'on parle. Et pourquoi avons-nous des compétiteurs? Puisque le marché, entre guillemets, de l'éducation, je sais qu'aux États-Unis, c'est un marché de plusieurs centaines de milliards de dollars. Il y a plus de 4500 institutions de 4 ans, en fait, 4-year institution aux États-Unis, plus de 4500, ça vous donne une idée. Et très, très important, nous continuons à avoir des programmes traditionnels pour un monde bouleversé. Nous continuons à créer des programmes comme nous l'avons fait depuis un siècle, basés sur le nombre d'heures en classe, basés sur l'accumulation d'un certain nombre de crédits, basés sur la lecture, basés sur le par cœur, alors que le monde est complètement bouleversé. Nous utilisons de vieilles, j'en reviendrai à celui de vieilles solutions pour de nouveaux problèmes. La vieille solution, ce qui était utile au début du XXe siècle comme discipline, comme apprentissage, n'est plus tout à fait ce qu'on doit faire aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il faut rayer, mais il faut repenser. Alors, quelques exemples d'innovation ici, très rapidement, Arizona State University aux États-Unis, qui est une immense université de plus de 70 000 étudiants et qui a une mission sociale, a décidé de changer sa façon de faire. Et le défi qu'elle a, c'est un défi intéressant, elle a dit comment peut-on fusionner accessibilité et recherche, donc massification de l'éducation au plus grand nombre et la recherche de haut niveau, ce qui est difficile. Ils ne sont pas encore parfaitement là, évidemment, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait la recherche pour quelque chose qui s'applique à, assez directement à la société qui nous entoure. Donc, dans le cas, par exemple, de Arizona State University, c'est un des projets de recherche qu'ils ont, c'est la désertification. Le D-School, alors j'ai été très heureux de voir, je pense qu'il y a des représentants ici du D-School Paris. Hein, je suis très heureux de voir qu'il y a un D-School à Paris. Je ne connaissais pas, je m'en suis aperçu hier. Donc le D-School à Stanford et à Paris, c'est le Design Schools qui est bâti sur le Design Thinking. Hein, donc au lieu d'avoir une hypothèse, on a un but. Et de ce but, on fait des prototypes plusieurs fois et on comprend et on s'adapte à ce qui se fait. Et c'est aussi très multidisciplinaire. L'Université Brown aux États-Unis est un exemple très, très intéressant. Ils ont décidé de ralentir et de s'éloigner des notes. Alors, les étudiants peuvent choisir s'ils veulent des lettres ou s'ils veulent un passe-faire, donc réussi ou non réussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Une fois que vous avez réussi, peu importe si vous avez A, B, C ou D, il y a juste le crédit. Et vous voyez ici, c'est intéressant aussi, pas de dés, les échecs ne sont pas compilés. Alors, c'est une très intéressante un mouvement vers l'avant. Évidemment, le pendant de ça et le revers de la médaille, c'est que l'Université Brown a chuté dans les classements internationaux. Alors, veut pas, les classements internationaux sont quelque chose auquel nous devons tenir compte. À McGill, où je suis, nous avons un programme très, très intéressant, un de nos plus populaires au premier cycle, qui est sciences cognitives, donc informatique, philosophie linguistique, psychologie et neurosciences, les étudiants l'adorent. Australian National University à Canberra, ils ont créé un PhD au lieu d'un PhD, donc c'est une espèce de doctorat de premier cycle. Les étudiants sont mis avec des professeurs, des chercheurs universitaires qui deviennent leurs directeurs de thèse au premier cycle, ils prennent des cours de recherche, etc. C'est un programme très intéressant qui se fait surtout en sciences. L'Université Duke, l'Innovation Core Lab, donc les incubateurs, il y en a beaucoup d'entrepreneurship, mais cet incubateur en particulier pose la question de l'université du futur. Et hier, en fouillant, j'ai vu que l'Université Purdue vient de créer un baccalauréat, donc l'équivalent d'une licence pour la France, basé sur les compétences. Très intéressant. Il faut quand même que je fasse un peu de publicité pour ma propre université. Hein. Alors, que faisons-nous à McGill? Donc, nous avons... la principale m'a demandé de m'occuper de ces choses-là. Au début, ce que voulait la principale, c'est quelque chose beaucoup plus sur l'expérientiel, donc plus de stages, etc. Et on s'est dit, est-ce que c'est vraiment, premièrement, les forces de McGill? Et est-ce que c'est vraiment utile pour les étudiants pour les 50 prochaines années? Alors, vous voyez ici, encore une fois, pour moi, c'est toujours la même chose, les 50 prochaines années. Et on s'est dit... Qu'est-ce qui va permettre aux étudiants d'aller de l'avant pour les 50 prochaines années? Nous avons misé sur les choses suivantes, l'internationalisation. Donc McGill a 25 % de ses étudiants qui ne viennent pas du Canada et plus de la moitié de ses professeurs ne sont pas d'originaire du Canada et nous avons des ententes avec plus de 150 universités. Donc, immerger les étudiants dans l'internationalisation. La recherche au premier cycle, nous pensons que les valeurs de la recherche, la méthode scientifique sera utile à travers les années. Hein? Focaliser sur un problème, trouver une hypothèse, tester l'hypothèse, nous pensons que ce sont des valeurs qui vont être bonnes pour les 50 prochaines années. L'enrichissement des programmes, alors ça c'est intéressant, nous avons donc vu, nous allons mettre de l'avant, nous continuons à mettre de l'avant ce que nos programmes font en dehors de la salle de classe. Donc par exemple, la faculté de musique permet à ses étudiants, nous disons ça fait partie d'une éducation du 21e siècle, permet à ses étudiants de chanter dans un opéra. La faculté de droit permet à quelques étudiants, de travailler à la cour suprême. La faculté de médecine dentaire a un laboratoire pour les SDF, en fait une clinique gratuite pour les SDF dont les étudiants s'occupent. Nous avons créé avec l'École de technologie supérieure de Montréal un quartier de l'innovation, si je ne me trompe pas, un des plus grands, un des meilleurs quartiers d'innovation est en France à Lyon, si je ne me trompe pas. Nous avons créé un quartier d'innovation. Nous travaillons avec EdX sur des MOOCs. Et nous avons aussi créé un bulletin extracurriculaire, hein, ça s'appelle un co-curricular transcript, où les étudiants peuvent suivre et faire la somme des choses qu'ils ont fait à l'extérieur de la salle de classe. Et évidemment, l'épanouissement personnel, hein, qui est ma responsabilité particulière. Mais est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Alors, évidemment, une image un peu tragique ici. Est-ce suffisant pour le futur? Alors maintenant, je vais vous donner trois pistes de réflexion pour ce qui s'en vient. Une sera immédiatement. Il faut immédiatement, selon moi, faire les choses suivantes. C'est une liste tout à fait non exhaustive qui est basée sur ma propre expérience, ajoutée, retirée, corrigée, peu importe. Je pense qu'il faut immédiatement faire des choses qui s'en vont dans cette direction. Une nouvelle classe pédagogique, alors vous avez un exemple ici de ce que nous faisons à McGill. Hein, donc ce sont des classes qui ne sont plus bâties en auditorium, comme vous le savez, mais qui sont beaucoup plus circulaires, où les étudiants travaillent en équipe et où le professeur n'est plus devant, ce qu'on appelle en Amérique « sage on the stage », hein, donc le sage sur l'estrade, mais beaucoup plus dynamique. Mais il faut repenser la pédagogie à ce moment-là. Il y a des professeurs qui n'aiment pas ça du tout, ce genre de pédagogie, parce qu'ils ne sont pas formés à faire ces choses-là, même des professeurs qui n'aiment pas avoir des étudiants dans leur dos. Alors, il faut repenser à ce moment-là, mais je pense que c'est important de faire ces choses-là. Il faut faire des évaluations de cours. Absolument. J'ai subi des évaluations de cours toute ma vie d'enseignant, de professeur. Elles sont un baromètre de ce qui se passe en classe. Elles sont absolument nécessaires. Elles vous donnent une idée, parce que essentiellement, nous travaillons pour les étudiants. Ils vous donnent une idée si le message a été reçu et compris. Les évaluations de cours ne sont pas la fin de tout, mais elles vous donnent une idée. C'est un des baromètres pour la qualité de la pédagogie, mais elles ne sont bonnes que si elles sont liées à des centres de perfectionnement pédagogique. Elles ne sont pas bonnes si elles sont utilisées pour éliminer, pour punir. Elles sont bonnes comme baromètre pour s'adapter avec des centres de perfectionnement pédagogique. Il faut commencer à penser au curriculum par objectifs et compétences. Il faut accepter la technologie. Vous ne pouvez pas aller en classe aujourd'hui, je m'excuse, je sais que ça arrive même au Québec, vous ne pouvez pas aller en classe aujourd'hui et dire aux étudiants « Alors, je ne veux pas de laptop, je ne veux pas... » C'est essayer de se battre contre un tsunami. Il vaut mieux utiliser le tsunami et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette eau qui s'en vient. Et il faut faire des incubateurs. Je pense que les incubateurs sont importants, les start-up pour l'entrepreneurship, pas parce que non plus c'est la réponse à tout. C'est une nouvelle façon. On ajoute à la boîte d'outils, hein, pour prendre une expression anglophone, des étudiants avec des incubateurs et ils arrivent à faire des choses différentes. Les professeurs sont différents, ils sont responsables de leurs projets. Il peut y avoir des incubateurs, évidemment, de start-up commerciales, mais ça peut être des start-up aussi à fonction sociale. Et il faut faire la refonte des politiques pédagogiques. Alors, la liste que vous voyez ici, c'est ce que nous sommes en train de faire à McGill. Ce n'est que le début. Et encore, ça revient à ce que je vous disais au début, c'est l'idée de l'inclusion plutôt que l'exclusion. C'est l'idée de créer un environnement sain mais exigeant. Alors, nous venons de passer de peine et de misère, mais ça a fonctionné, un règlement au Sénat universitaire, qu'aucun examen ne peut dépasser, aucun examen final ne peut dépasser 75 % de la note finale. Il faut, en fait, et ça c'est le maximum, et on aimerait en fait que toutes les évaluations soient distribuées à travers le semestre. Nous sommes en train d'étudier la possibilité de ne plus avoir de notes du docteur ou du médecin quand les étudiants manquent un cours ou un examen. Ça peut paraître particulièrement révolutionnaire, mais nous nous sommes aperçus de deux choses. La première, c'est que quand il y a eu l'épidémie du H1N1, très, très peu d'étudiants, en fait, à peu près aucun étudiant n'a abusé du système. Ça, c'est la première chose dont on s'est aperçu. La deuxième chose, c'est que si nous voulons changer la relation que nous avons avec nos étudiants, il faut commencer à leur faire confiance. Très peu de nos étudiants sont des criminels. Et les criminels, non, mais vous savez ce que je veux dire, les criminels seront des criminels de toute façon. Les copieurs, les menteurs, ils sont là de toute façon, peu importe le règlement que vous allez mettre. Alors, vous allez bâtir une série de règlements agressifs, punitifs, pour 2% de la population. On s'est dit, est-ce que ce ne serait pas plus utile de faire confiance aux 98% et de comprendre, comme me disait le doyen aux étudiants généralement, dernièrement à McGill, que de toute façon, nous avons un système un peu bête qui présume que 100% des gens seront en santé le jour de l'examen. Absolument impossible. Hein? Mais nous avons bâti le système là-dessus. Pour moi, c'est une question de faire confiance aux étudiants. Il faut refaire des principes pédagogiques, d'avoir, non pas d'essayer d'avoir des choses très, très précises, parce que les facultés sont trop différentes, mais quels sont les principes pédagogiques sur lesquels nous voulons bâtir nos programmes, bâtir nos relations, bâtir avec nos étudiants, bâtir les politiques pédagogiques que nous avons. Il faut définir la réussite. Qu'est-ce que la réussite aujourd'hui au 21e siècle à l'université? Nous avons basé toute la notion de réussite sur les notes et pratiquement exclusivement sur les notes. Est-ce la bonne façon de concevoir la réussite aujourd'hui dans un monde complexe? Est-ce que les notes sont suffisantes? Elles sont une partie de l'histoire. Nous en avons fait toute l'histoire. Et je vous dirais, écoutez, je ne connais beaucoup moins la situation en France, donc je vais vous dire qu'en Amérique, certainement les étudiants qui finissent le premier cycle avec le baccalauréat ou ici la licence, jamais, jamais, jamais en Amérique, un employeur ne regarde le relevé de notes. Jamais. Les notes servent à l'université pour aller aux études supérieures, pour les bourses de recherche. Alors, il serait peut-être le temps de repenser, de redéfinir la réussite. Et il faut prendre l'exemple de Brown, comme je vous ai donné, avec l'idée d'éliminer les notes. Il faut y penser. Je ne vous dis pas que c'est la solution. Et encore une fois, ce n'est pas one size fits all. Il n'y a pas une solution pour tous les enjeux que nous avons. Il faut être volontaire dans nos façons de vouloir repenser. Reconceptualiser 10 ans. En fait, si vous avez ceux qui veulent bien s'amuser, allez faire un petit tour. Ici, c'est une compagnie qui s'appelle Boston Dynamics, qui a été rachetée par Google, qui font des robots assez effrayants, en fait. Ça, ici, ce robot s'appelle Big Dog, hein, le gros chien. Il est particulièrement effrayant parce qu'on peut le pousser et il reprend son équilibre tout seul, comme un être vivant. Allez faire un petit tour sur Google, vous verrez, c'est assez impressionnant. Que devons-nous faire dans les 10 prochaines années? Alors, il faut faire les choses suivantes, je pense, et commencer tout de suite. Il faut commencer à penser si nos curriculums devraient être basés sur des disciplines ou sur des thèmes. Devrions-nous étudier la biologie ou devrions-nous étudier le cerveau humain, hein, qui serait beaucoup plus multidisciplinaire. Il faut repenser les semestres. Comment sont les semestres? Nous avons une façon de faire des semestres, hein, 2 gros blocs ou 3 gros blocs dans l'année. Avons-nous des semestres d'une semaine, 2 semaines, 3 jours, 2 ans? Hein? Il faut introduire de la flexibilité dans le système, de la transparence et de la différence dans le système. Il faut repenser la progression. Pourquoi est-ce que les étudiants doivent finir un diplôme en 3 ans ou 4 ans et c'est fini? Pourquoi doivent-ils le faire d'un coup? Pourquoi? Ben, on l'a toujours fait comme ça et parce qu'on est basé sur des principes d'exclusion. Alors, si vous changez, posez-vous la question, pourquoi? Il y a peut-être de très bonnes raisons. Moi, je ne les connais pas, en fait, hein, parce que c'est un principe d'exclusion. Il faut repenser l'évaluation, absolument. Nous ne sommes pas, en fait, la plupart d'entre nous, et je m'inclus là-dedans, évidemment, nous ne sommes pas des experts de l'évaluation. Et pourtant, tout notre système est basé sur l'évaluation. Nous faisons ça au pif, nous faisons ça à peu près. Et nous savons qu'on a beaucoup de difficultés à lier l'évaluation au développement des compétences. La plupart des professeurs à l'université. Il faut repenser le campus physique avec Internet of Things, cette salle-là. Ces choses-là vont bientôt disparaître ou elles vont être complètement différentes. Les choses vont communiquer entre elles, les immeubles vont être transparents. Vous allez pouvoir projeter sur n'importe quel mur. Il faut repenser l'idée du campus physique. Et évidemment, si on repense l'idée du campus physique, il faut repenser la socialisation parce qu'une bonne partie du campus physique, c'est justement l'idée qu'il y a de la socialisation. Hein? Comment repenser l'un avec l'autre? Maintenant, j'ai bientôt fini, messieurs, je les vois du coin de l'œil comme ça, là, j'ai mon truc ici. Reconceptualiser dans 25 ans. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Qu'allons-nous faire ici pour reconceptualiser pour les prochains 25 ans? Devons faire la chose suivante. Que faisons-nous de mieux que les machines et qu'est-ce que les machines font de mieux que nous? L'intelligence artificielle, et vous allez devoir l'inclure dans votre salle de classe, l'intelligence artificielle, le big data, toutes ces choses-là nous donnent accès à des nouvelles couches d'informations, à des nouvelles dimensions du monde. Nous sommes capables maintenant de voir la matière noire, hein, dark matter. Nous sommes capables maintenant de commencer à comprendre le cerveau humain, la génétique. Nous sommes capables de commencer à comprendre les pandémies et les épidémies. Les machines nous donnent accès à de nouvelles couches du réel. Elles nous font voir le monde différemment. Elles nous permettent de dépasser les limites biologiques de notre cerveau. Acceptez ces choses-là, utilisez-les dans le développement de vos programmes et de vos matières. Et qu'est-ce que nous allons pouvoir ajouter? Qu'est-ce que l'être humain devrait ajouter? Il devrait ajouter les produits de l'évolution. Nous sommes le produit de l'évolution. Il y a des choses que nous faisons bien mieux que les machines, que nous allons continuer à faire mieux que les machines, car elles sont le produit de l'évolution. Ces choses sont quoi? L'ambiguïté. L'être humain vit dans l'ambiguïté, est capable de comprendre l'ambiguïté, impossible pour les machines. La généralisation, la créativité, la compassion, l'empathie, le désir de survivre, le fait que nous savons très bien que nous avons un temps limité pour vivre, ce sont des choses qui sont parfaites pour l'être humain. Et ce que nous devons faire, c'est nous asseoir sur les épaules de géants, comme on le disait au Moyen Âge. Les géants, ce sont les machines. et ne pas essayer de combattre les géants, nous asseoir sur leurs épaules, elles vont nous donner accès à d'incroyables nouvelles connaissances. Et là-dessus, nous allons devoir ajouter ce qui est spécifiquement humain, la métacognition, l'ambiguïté, la généralisation, comprendre et la stratégie. Je vais vous donner un exemple que j'ai de plus en plus vite. Je vais vous donner un exemple ici. Quand Garry Kasparov a perdu sa série de matchs contre Deep Blue au début des années 90, on a pensé que c'était la fin des échecs. Je ne suis pas un joueur d'échecs, alors il faut prendre ce que je vous dis avec un petit peu un grain de sel. Mais Kasparov a écrit un article récemment dans le New York Review of Books, et il expliquait en fait que bon, non seulement les échecs existent encore et que les êtres humains jouent encore, entrent en compétition les uns avec les autres en échecs, mais il y a maintenant des compétitions d'échecs où ce sont des groupes d'êtres humains, en fait des équipes d'êtres humains avec des machines qui entrent en compétition les uns avec les autres. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement le groupe qui gagne n'est pas le groupe qui a les meilleurs joueurs d'échecs, mais le groupe qui a le meilleur esprit d'équipe et qui travaille le mieux avec la technologie. Et c'est ça que nous devons faire. Ce groupe d'êtres humains utilise le bluff, l'esprit d'équipe, la stratégie, des qualités parfaitement humaines avec les machines, hein, et utilise ce que les machines leur donnent. Et avec les machines, en plus de cela, nous avons accès à de nouvelles connaissances, à de nouvelles façons de comprendre les échecs. Alors, la question fondamentale est la suivante. We know how to make machine things. What we don't know is how to make them thoughtful. Nous savons comment faire penser les machines. Nous ne savons pas comment leur donner la sagesse. Ça, c'est notre rôle. Alors, que faire rapidement? La structure impose des formes, des schèmes de pensée. Il faut briser la structure de nos institutions qui est rigide, qui est toujours la même, qui est hiérarchique. Il faut déhiérarchiser. Il faut complètement ouvrir cette structure-là. Il y a beaucoup d'innovation qui se fait dans les centres de recherche, très peu dans les structures. Et les structures, ce n'est pas juste les administrateurs. Les structures, c'est les professeurs, c'est tout ce qui va avec, c'est tout ce que nous avons créé ensemble. Il faut penser à de nouvelles structures. Il faut chercher, je vous l'ai dit, de nouvelles solutions, de nouveaux problèmes. Il faut penser au troisième hémisphère. Tout passe par la technologie. Il faut mettre l'accent sur l'humain, comme je viens de vous le dire. Il faut ralentir le développement d'habilités répétitives. On pourrait y revenir là-dessus, mais il ne me reste pas beaucoup de temps, puisque les machines vont prendre le dessus sur plusieurs de nos habilités cognitives répétitives. Il faut regarder 50 ans en avant, pas juste 5 ans. Il faut faire le 5 ans, mais il faut regarder 5 ans. Enseigner l'ambiguïté, enseigner la complexité, bousculer la structure pédagogique traditionnelle. Il faut repenser, accepter que de nouvelles intelligences émergent, les intelligences machines, les intelligences de ville, l'amplification de l'intelligence. Il faut même accepter qu'il y a de nouvelles intelligences humaines qui apparaissent, et vous allez pouvoir évidemment me contester ici, mais aujourd'hui, l'autisme, par exemple, est dans notre société, c'est une nouvelle forme d'intelligence, ça n'a rien de la rejeter, elle est là, il faut accepter ces nouvelles formes d'intelligence. Il faut accepter, vous serez tout à fait, je suis, la plupart d'entre vous seraient en désaccord avec moi, il faut accepter que les machines seront de meilleurs professeurs que nous, mais que nous serons de meilleurs coachs qu'elles. Il faut accepter de repenser la socialisation, l'idée même de nos institutions par rapport à la maturité. Et je vous donne une proposition pour les 50 prochaines années. Comment pourrions-nous prévoir et inventer et projeter l'université dans 50 ans? Imaginez-vous, évidemment c'est une proposition, imaginez-vous que nous arrivions à créer des mondes, on n'est pas très loin, des mondes virtuels d'une grande complexité, avec des avatars, avec de l'intelligence artificielle qui parle en langage naturel et qui vous répondent et qui sont capables de lire vos émotions. Imaginez-vous que nous soyons capables de créer cela et que nous pourrions dire aux étudiants, pénètre dans ce monde par la réalité virtuelle, agis sur ce monde, par exemple le monde financier, regarde les conséquences. Et ensuite, dans la complexité de ce monde, et ensuite, ensemble, le professeur et l'étudiant peuvent analyser toutes les conséquences de tous les gestes dans l'immense complexité du monde. On pourrait imaginer ça. Et je vais finir en vous donnant la chose suivante. Si nous voulons vraiment repenser l'université, essayons d'aller vraiment le plus loin possible, hein, de casser les structures et les schèmes de pensée et la fameuse boîte, hein, Thinking Outside the Box, la fameuse boîte. À quoi ressemblerait un système d'éducation s'il était tel un essaim, une volée, un jeu vidéo, une danse, s'il était tel une ruche ou une fourmilière, un opéra ou un être vivant? S'il était tel une fourmilière, en fait, il n'y aurait pas de centre décisionnel. Il y aurait d'immenses, d'innombrables petites unités qui fonctionneraient une à la fois, mais qui seraient redondantes, mais résilientes, et qui arriveraient à résoudre des problèmes de façon intelligente. Voilà. Merci.
Grand merci à Olivier qui reste avec nous parce qu'on va essayer de mettre en pratique finalement une partie de ce qu'il a dit à travers vos questions. Donc, essayons de nous comporter comme un cerveau collectif pour faire avancer le débat. Donc, vous avez la parole, en fait, pour réagir, poser des questions, compléter, dire ce que vous voulez.
Michel Briand, j'anime un site qui s'appelle Innovation Pédagogique. Si on regarde un peu ce qu'a changé la technologie dans les 10-20 dernières années, pour moi, c'est essentiellement le fait que chacun aujourd'hui a le droit d'écrire sur un blog, sur Facebook, que chacun peut faire du pair à pair pour se déplacer, se loger. Et ce que je me dis, c'est que si on regarde l'université, où est-ce qu'on voit du pair à pair? Où est-ce qu'on voit les étudiants producteurs? Où est-ce qu'on voit le développement de ce qu'on peut appeler les communs? Et donc la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi cette interrogation de ce que pourrait être une université contributive où chacun devient acteur?
Oui, écoutez, tout à fait. L'idée, vous avez tout à fait raison. L'idée, c'est que, je vous dis, ce sont des pistes de réflexion. Je n'ai pas la prétention, je vous ai proposé un certain avenir. Je n'ai pas la prétention de dire que ce sera l'avenir, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais exactement ça, je pense qu'il faut se défier entre nous et se dire, est-ce que nous avons les structures et les institutions qui sont les meilleures possibles dans le monde dans lequel nous sommes et qui donnent à la fois à la société par la recherche, à la fois aux étudiants par l'apprentissage et les connaissances, à la fois à la société en général, parce que nous formons, qui donne les meilleurs résultats. Je ne parle pas ici, ce n'est pas simplement le résultat dans le sens là, d'avoir un truc financier, mais les résultats au niveau du développement des habiletés critiques, de la recherche, du travail en équipe. Tout à fait, écoutez. Et la technologie n'est pas la seule solution et n'est pas une solution. Mais c'est un environnement aujourd'hui. Hein? Alors, dans cet environnement, il y a... Rappelez-vous ce que je disais Gibson au début. Nous avons un sentiment de sublime et de terreur. Nous avons le sublime parce que nous sommes très, 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 très heureux par tout ce que nous découvrons avec la technologie, le GPS, etc. Et un sentiment de terreur parce que nous perdons des choses et nous avons de la difficulté à savoir lesquelles nous perdons. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'ignorer toutes ces choses-là et ne focaliser que ce sur quoi... Non, ne focaliser que sur les choses que nous perdons. Voilà, c'était plus facile.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de ce que vous avez dit, c'est de remarquer que tout ça fonctionne en interaction avec les bouleversements des modèles économiques en général. Et donc, ce que vous pouvez vivre, ce qu'on peut vivre dans l'enseignement supérieur et également se passe dans la santé, dans des entreprises privées, qui sont dans le même état d'incertitude et de potentiel.
Oui, bonjour, Sylvie Blanco, je suis professeure et fondatrice d'un campus à Grenoble École de Management qui essaye de répondre un peu à ce que vous dites. Alors, en vous écoutant, j'avais un peu l'impression d'entendre l'histoire de Polaroid ou de Kodak. Et donc Polaroid et Kodak n'ont quand même pas très bien fini, sauf que ça date de plus de 15 ans, donc probablement qu'il y a un certain nombre de pistes qu'elles ont explorées dont on peut retirer des apprentissages. Dont tout le mouvement de créer leurs écosystèmes avec autour d'elles des universités, des start-up, etc. Est-ce que c'est quelque chose dont on pourrait s'inspirer, nous ?
C'est intéressant que vous parliez de Kodak parce que c'est une des choses dont je parle souvent, hein, la codification hein, ou la polarisation de l'université, c'est-à-dire est-ce qu'on va disparaître aussi vite qu'eux. Ce qui est très intéressant dans l'histoire de Kodak et de Polaroid, c'est que d'abord, c'est eux qui ont inventé la caméra numérique. Hein, c'est eux qui l'ont inventé et ils ont vu la révolution venir. Ils savaient que ça allait complètement bouleverser leur modèle économique avec la pellicule, mais ils n'ont pas été capables de réagir à cause d'une structure vieillotte, hein, une structure avec tous les magasins et leurs distributeurs. Ils n'ont pas été capables de réagir. Alors, je pense que, écoutez, l'université, pour revenir à ce que vous dites, l'université est un environnement complexe. Donc, j'en ai pas parlé dans ma présentation, mais nous sommes là depuis plus de 1000 ans et nous avons résisté à toutes sortes de bouleversements, de révolutions, etc. Pourquoi? En fait, je me suis souvent posé la question avec des collègues. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas l'institution qui va survivre ou qui devrait survivre, mais ce pourquoi l'institution est. Et ça veut dire un endroit relativement protégé de la société où nous pouvons poser des questions sur le monde et faire des recherches sur le monde avec et permettre aux étudiants de mûrir. Est-ce que l'université elle-même, l'institution, va survivre ? Je vous dirais, de toute façon, comme je ne suis pas en début de carrière, je peux vous dire peu importe, c'est ce pourquoi elle compte qui devra et qui doit survivre. Et je vous dirais que les startups, c'est une façon aussi d'exactement aller dans cette direction-là, c'est-à-dire une nouvelle façon de créer cette interaction beaucoup plus libre, qui donne beaucoup plus de responsabilités aux étudiants, qui leur fait confiance et qui leur permettent aussi d'avancer, de trébucher, de recommencer, d'avancer et d'avoir une relation avec les professeurs qui est beaucoup plus celle de coach ou de mentor que de professeurs et de personnes qui distribuent au goutte à goutte l'information. De l'autre côté, j'en vois beaucoup parce que nous avons des compétitions de start-up à McGill et j'en ai vu beaucoup. Et là, il y a aussi, on voit de temps en temps, on voit qu'on commence à avoir, il y a une répétition aussi dans la façon dont les jeunes abordent les start-up. Ils essayent de trouver l'application qui va être achetée par Google. Hein, et ça, c'est un petit peu le modèle. Et parfois, je les voyais, je disais, on dirait une solution qui cherche un problème ici. Hein. Mais l'idée est intéressante. L'idée est intéressante et ils sont tout à fait stimulés par cette question-là. Tout à fait stimulés. De l'autre côté, et je veux pas, je parle trop, mais je suis un extraverti, c'est pour ça. De l'autre côté, ils sont stimulés par les startups, mais ça crée aussi d'immenses tensions chez les jeunes personnes. Parce que leurs modèles qu'ils ont, les modèles qu'ils voient, quand j'avais leur âge, mes modèles étaient des réalisateurs, des philosophes, des écrivains, bon, des gens d'un certain âge. Leurs modèles, ce sont le milliardaire de 25 ans qui a vendu sa compagnie à Google. Ça, c'est le modèle. Le modèle, c'est Mark Zuckerberg. Hein, le modèle, c'est les gens de Google. Et pour eux, 25 ans, c'est déjà le moment où ils devraient être en grande réussite. Et on le sent tout de suite à l'université. Très peu de temps pour réagir. Et les startups sont très intéressantes. Tout l'entrepreneurship est très intéressant. Mais ils poussent aussi dans cette direction d'une réussite rapide et instantanée qui crée énormément de problèmes chez nos jeunes. Écoutez, je lisais dernièrement que les grandes tensions chez les jeunes dans les années 60, c'était la guerre nucléaire. Dans les 90, je ne me rappelle plus très bien c'était quoi. Enfin, les grandes tensions, les grands questionnements des jeunes générations, des jeunes de 20 ans. Aujourd'hui, ça va vous paraître complètement ridicule, mais réfléchissez-y deux minutes. La plus grande obsession des jeunes aujourd'hui, en tout cas en Amérique, je ne peux pas dire pour la France, ce sont les notes. Alors, si les notes ont tant d'importance, imaginez-vous la pression qu'ils ressentent à l'université. Si les notes sont plus importantes que l'environnement, que les déchets, que l'utilisation de l'océan Pacifique comme une poubelle, que les tensions que nous avons avec les pays un peu partout, si les notes sont plus importantes, imaginez-vous la tension qu'ils ressentent. Hein? Et ça, peu d'entre nous faisons attention à ces choses-là. Et c'est pour ça que je trouve que les startups sont intéressantes parce qu'on élimine les notes aussi, mais on participe du même coup aussi à cette instantanéité de la réussite. Moi, je pense qu'il faudrait un mode d'organisation comme ça de l'université. Ça revient à ce que je vous disais sur la flexibilité des programmes, des semestres et de la progression. Les startups sont extracurriculaires. Pourquoi? Le but, c'est le développement de compétences. Hein? Le développement de compétences se fait de différentes façons. Et peut-être qu'on ne peut pas les noter, les startups, mais pourquoi noter si on arrive à avoir les compétences?
Oui, ça marche. Oui, professeur Olivier Bonneau, je suis directeur d'un GIP, qui est la Coordination nationale pour la microélectronique en France, et responsable d'un projet IDEFI qui s'appelle Femina. Alors, il y a beaucoup de points, bien sûr, sur lesquels je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez présenté. Il y a un point sur lequel j'aimerais quand même qu'on puisse insister, c'est le fait que, bien sûr, tous les outils actuels permettent ce que j'appellerais de croître la connaissance, l'apprentissage presque par cœur d'un certain nombre de choses, permet d'améliorer la compréhension si on rajoute des outils de modélisation, de simulation, etc. Mais quelque chose qu'il ne fait pas, c'est ce que j'appelle le savoir-faire. Et je pense que c'est vraiment une difficulté à l'heure actuelle. Et le rôle, je pense, des enseignants du futur, ça va être d'utiliser au maximum les outils pour faciliter le travail qui serait après de l'apprentissage du savoir-faire. Oui. Et le savoir-faire, c'est non plus être en monde virtuel, mais être dans un monde réel, physique. Je suis en technologie. Si on n'a pas un composant devant soi, ben on n'a rien compris. Hein, voilà, donc un petit peu, c'était le type de commentaire que j'aurais.
Je pense que vous avez tout à fait raison. Hein, ça rejoint un peu ce que je disais sur la socialisation. Hein, c'est des problèmes qui m'interpellent beaucoup. La technologie nous amène beaucoup, nous enlève beaucoup aussi. Hein. Mais il faut être conscient de ça. Kevin Kelly, qui est un écrivain américain, disait quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur la technologie. Il disait, la technologie amène beaucoup, enlève beaucoup, mais il dit, je pense, c'était son hypothèse, qu'elle amène toujours un peu plus que ce qu'elle enlève. Hein. Et sur 100 ans, en fait, ça fait beaucoup, beaucoup d'avancement et de progrès. Mais il y a une perte, et vous avez tout à fait raison. Et si je reviens sur... Si je reviens sur le truc virtuel, ici, ça, par exemple, pour moi, c'est très important. Donc, nous avons développé une application McGill à McGill, hein, et l'idée, c'était de diminuer la complexité du monde, hein, le savoir, pour que le savoir-faire et le savoir-être, les étudiants puissent vivre dans ce monde. Et moi, la question que je me pose à ce moment-là, parce que nous aimerions bien passer à cette deuxième version, c'est... Allons-nous prendre par la main, nourrir à la petite cuillère et leur dire exactement quoi faire? Alors la solution, ce qu'on pourrait faire avec les technologies pour essayer de répondre à votre question, c'est que ces assistants personnels, ce qu'ils devraient faire et ce qui serait intéressant, ils devraient nous ouvrir des portes. Hein, des portes pour des nouvelles voies. Avez-vous pensé à cela? Seriez-vous capable d'imaginer cela? Beaucoup plus que tourner à droite, tourner à gauche dans 200 mètres, prenez truc, l'examen est dans une heure, étudiez page 17 à 19. C'est un peu dans cette direction-là qu'on s'en va et on va perdre le savoir-faire et le savoir-être. Il faudrait aller vers des technologies qui ouvrent des portes de connaissances. Mais on n'est pas du tout là parce que ça revient à ce que je vous avais dit au début. Nous ne sommes pas encore accaparés de ce monde. Ce sont les grandes compagnies qui s'en accaparent. Et pour lesquelles, et c'est tout à fait cohérent, et c'est tout à fait justifiable, parce que c'est leur rôle, pour elles, pour ces compagnies-là, c'est des interfaces les plus faciles possibles, ce qui donne le plus de soutien possible, et qui sont les plus agréables à voir et à faire. Ce ne sont pas des interfaces pour nous faire penser, ce sont des interfaces pour nous faciliter la connaissance du monde, mais là, nous perdons justement le savoir-faire et le savoir-être. C'est bon? Merci. 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 Merci.